vous suit.
On entame avec les titres du journal.
La municipalité d'Aigle et le comité à l'origine du référendum sur les aménagements extérieurs de l'hôtel de ville ont trouvé un accord. Une résolution en ce sens a été votée hier soir lors du conseil communal. Les métiers scientifiques ont peu de succès auprès de la jeunesse valaisanne. Le service cantonal de la formation souhaite y remédier en lançant un nouveau programme. Le gouvernement vaudois propose une augmentation de son soutien au sport dans le canton. Il a présenté hier un certain nombre de mesures et une volonté de revoir les budgets à la hausse. Et en football, le FC Monté vient de nommer son nouveau président. Il s'agit de Julio Tejeda, ancien joueur du club qui prendra ses fonctions la semaine prochaine.
Du côté de la météo, après un vendredi et un samedi matin sous le soleil, les orages sont prévus demain après-midi, voire en soirée. Météo complète à la fin de ce journal. Le journal de la mi-journée présenté par Xavier Bourgeot. Bonjour.
Bonjour. Les discussions ont été nombreuses hier soir lors de la dernière séance avant l'été du Conseil communal d'Aigle. Le plan climat a été approuvé et les comptes 2023 également. Mais c'est un tout autre sujet qui a monopolisé une partie des débats. Une interpellation de l'UDC Patrice Badan concernant le référendum annoncé le 12 juin dernier sur les aménagements extérieurs de l'hôtel de ville. À la suite de cette interpellation, une résolution de conciliation a été acceptée. Grégory Deveau, syndic d'Aigle.
On est ce soir en présence effectivement d'une interpellation à la municipalité qui concerne les suites finalement du préavis des aménagements extérieurs de l'hôtel de ville et en partie de la place du marché. Différents échanges ont eu lieu puisqu'un référendum a été lancé avec le comité référendaire et la municipalité. Et puis ce soir, voilà, un certain nombre de conseillers ont repris à leur compte ces propositions pour les valider formellement devant ce conseil comme étant un vœu affirmé. La municipalité a adhéré dans ce sens pour apaiser la situation. Et puis déclencher, ça a été annoncé par les référendaires, déclencher un retrait, un stop sur ce référendum. Il y a une initiative qui continue, qui permettra une discussion tout à fait sereine. Mais aujourd'hui, on entend les référendaires nous dire nous arrêtons, nous bloquons et retirons le référendum. Et puis effectivement, la résolution votée par le Conseil demande à ce qu'il y ait l'intégration d'une dizaine de places de parc sur la rue Plantour. Et ça, c'est des démarches qui vont être entreprises. La municipalité s'y est engagée.
Un sujet réalisé par Léa Journaux.
Le canton du Valais s'associe à l'EPFL et UBS pour mieux vendre les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes.
Leur nouveau programme, Les sciences, ça m'intéresse, et cherche à redonner de l'intérêt dans ces orientations souvent boudées. Plusieurs activités ludiques seront proposées aux garçons et filles de 7 à 16 ans, à l'école et en dehors. Pour Christophe Darbelay, chef du département cantonal de la formation, il est essentiel de mettre plus en avant ce secteur en Valais.
C'est des branches pour lesquelles il est parfois un peu plus difficile de se motiver, sauf lorsqu'on a compris l'utilité d'une science. Et c'est exactement ce qui est fait dans ce programme conjoint entre les PFL soutenu par l'UBS. C'est la volonté d'amener les sciences vers les enfants pour les éveiller, en fait, et éveiller leur intérêt pour plus tard. La prospérité de ce canton est due à l'industrie, mais aussi à d'autres secteurs de l'économie, et que ces compétences, elles sont essentielles. On est un pays qui n'a pas grand-chose d'autre que la matière grise à revendre, et par conséquent, de favoriser, en fait, les vocations dans un domaine comme celui-là, dans le domaine des sciences, de la technique, c'est essentiel pour assurer l'avenir économique du canton, parce que ces compétences fondamentales, elles sont nécessaires vraiment dans tous les secteurs de l'économie.
Christophe Darbelay au micro de Florian Claret. Et on reste avec Christophe Darbelay qui a été élu pour 2 ans à la présidence du comité gouvernemental de la HESSO. Le conseiller d'État valaisan succédera dès le 1er juillet à la neuchâteloise Christelle Graff. La vice-présidence revient à la genevoise Anne Hiltpold.
La révision de la 3e correction du Rhône suscite une levée de boucliers auprès des organisations environnementales valaisannes.
Et dans un communiqué commun diffusé cette semaine, le VVF, Pronatura et Chablair dénoncent un rétropédalage du canton qui met en péril la sécurité des habitants et menace la durabilité du fleuve. Les organisations critiquent notamment un projet au rabais qui mènerait à l'abandon d'une partie de la renaturation du cours d'eau et à l'usage de techniques dépassées. Aujourd'hui, ils appellent le canton à lancer Rhône 3 malgré l'impact sur les terres cultivables. Marie-Thérèse Sangra, secrétaire du VVF Valais-Vraumont.
Bien sûr que nous, on souhaite la préservation des terres agricoles. Il faut savoir que aujourd'hui, chaque année et demie, l'extension de la zone à bâtir grignote, avec ou sans 3e correction du Rhône, une telle quantité de surface d'assolement. Donc le problème est dans la maîtrise de notre bâti, et la 3e correction du Rhône ne peut pas se faire sans malheureusement un petit sacrifice des terres agricoles. Par contre, les terres agricoles le reste de la zone agricole sera beaucoup mieux protégé après la réalisation de la 3e correction du Rhône.
Pour l'UDC, la perte de terres agricoles n'est pas acceptable. C'est pourquoi le redimensionnement du projet Rhône 3 est souhaitable. Alexandre Cipolla, député UDC au Grand Conseil valaisan.
C'est 300 hectares hein, qu'on parle de terres d'assolement, c'est-à-dire qu'ils doivent être prévus en cas de crise. Et on constate aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens de pouvoir compenser ces 300 hectares. Ça devra se faire très certainement sur le terrain bâtissable. Donc on devra prévoir des indemnisations pour toutes les personnes qui seront potentiellement expropriées. Donc ça, clairement, ça n'avait pas été prévu à l'époque. Il faut savoir que ça, c'est des contingences fédérales. Hein. C'est la LAT qui prévoit que l'on doit compenser ces terrains d'assolement si on les touche. Et puis ça semble le cas dans ce projet surdimensionné.
Et pour rappel, la troisième correction du Rhône est considérée comme disproportionnée par le Conseil d'État. Débuté il y a plus de 20 ans, le projet doit être corrigé pour abaisser la facture fixée à 4 milliards de francs. C'était un sujet réalisé par Anthony Dacampo.
Le Conseil fédéral va devoir s'occuper de la situation des cabanes de montagne.
À la suite d'un postulat déposé par le Valaisan Benjamin Roduit et voté il y a 2 semaines, le gouvernement devra donc agir. Passionné de montagne depuis toujours, Benjamin Roduit a vu la situation autour des cabanes d'altitude se dégrader. Avec l'acceptation du postulat par le Conseil national, le gouvernement a maintenant 2 ans pour agir.
Concrètement, le Conseil fédéral va devoir faire l'inventaire de toutes les mesures existantes, qu'elles soient financières ou non. On peut bien sûr penser notamment aux aides des collectivités publiques en termes de matériel, en termes de personnel. Hein. Il n'y a pas si longtemps, eh bien, l'armée ou la protection civile était régulièrement engagée pour la réfection des chemins de montagne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc là, ça doit faire partie de la réflexion aussi du Conseil fédéral.
Un sujet réalisé par Léa Journeau. À noter que dans la région, les cabanes d'altitude ne sont pas encore en danger, mais des fermetures de chemins pédestres peuvent parfois couper l'accès à ces lieux.
Le Conseil d'État vaudois a présenté hier son contre-projet à l'initiative populaire pour une politique sportive ambitieuse.
Cette initiative a été déposée en 2022. Elle réclamait une augmentation des soutiens cantonaux pour le sport tant populaire qu'associatif que pour le sport d'élite. Dans son contre-projet, l'État de Vaud va dans la même direction. Il met notamment l'accent sur la nécessité de développer de nouvelles infrastructures sportives. Nicolas Imhoff, chef du service cantonal de l'éducation physique et du sport.
Le principal résultat alarmant, qui n'était pas une surprise, mais qui nous permet d'objectiver les chiffres, c'est le sondage que nous avons mené auprès des clubs sportifs vaudois. La moitié des clubs qui ont répondu disent au manque d'infrastructures ou d'accès aux infrastructures pour notre pratique sportive, ce qui incite la moitié de ces clubs à refuser des nouveaux membres. Donc ça, c'est un chiffre particulièrement alarmant. On se bat pour essayer d'augmenter la pratique sportive et l'activité physique de la population. Et finalement, quand des personnes s'adressent dans un club, ben une fois sur quatre, on leur dit « je suis désolé, on ne peut pas vous accueillir parce qu'on n'a pas assez de salles, on n'a pas assez de lignes d'eau, on n'a pas assez de patinoires, on n'a pas assez de terrain de tennis ». Ça, c'est vraiment le résultat le plus alarmant.
Nicolas Imhoff, au micro de Basile Dayer. Et contacté par Kistonatéas, le président du comité d'initiative, Sergei Ashvanden, s'est dit globalement satisfait par le travail effectué par le canton pour élaborer ce contre-projet. Il souligne néanmoins que les montants présentés, 86 millions par année alloués au sport, demeurent inférieurs aux 100 millions demandés par l'initiative. Genève brigue à son tour officiellement l'organisation de l'Eurovision de la chanson en mai 2025. La ville et le canton ont déposé aujourd'hui un dossier de candidature conjoint. Les exécutifs genevois s'engagent par ailleurs à sécuriser 30 millions de francs pour l'organisation de l'événement, dont il est attendu d'importantes retombées économiques. À l'étranger, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé hier la révocation de plus de 300 fonctionnaires du ministère de la Culture, à qui il reproche de promouvoir des projets non compatibles avec la vision de son gouvernement. Selon ses détracteurs, cette mesure vise les personnes ayant des opinions libérales sur la question du genre. Le président salvadorien, qui a entamé au début juin son deuxième mandat après une réélection triomphale en février, n'a pas précisé de quel programme ni de quelle vision il s'agissait. Et coup de théâtre dans la vente du magazine hebdomadaire français Marianne, rebuté par des articles de presse affirmant que le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin avait des liens avec le Rassemblement National, la rédaction a finalement rejeté cet acquéreur et s'est mise en grève. Elle a demandé à l'actionnaire actuel, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de se mettre en quête de nouveaux acquéreurs en mesure d'assurer l'indépendance éditoriale de Marianne et la pérennité économique du titre. On passe au sport et en football. Julio Tejeda est le nouveau président du FC Monté. L'ancien joueur du club, également professionnel dans le foot suisse et entraîneur, succédera dès le 1er juillet à Dominique Farinato, lequel a annoncé son départ hier soir après 10 ans à la tête du club.
En cyclisme, le Tour de France 2024 commence ce samedi à Florence.
Et avec 11 participations, 2 quatrièmes places au classement général et une victoire d'étape, le Chablaisien Laurent Dufaux connaît bien le Tour de France. Pour lui, il s'agit de la plus grande course du monde.
énormément de monde au bord des routes du premier au dernier jour, que ce soit une étape de plaine, une étape de montagne, il y a toujours un engouement incroyable aux arrivées, au départ des étapes. Il n'y a que cette course qui attire autant de monde. Le fait qu'il y a énormément de journalistes aussi, donc tout est multiplié par 100 finalement. Donc c'est ça qui fait qu'on est dans une course qui a un phénomène un peu particulier qui amène aussi énormément de tensions nerveuses.
Laurent Dufaux au micro de Basile Dayer. À noter que 3 Suisses prendront le départ demain samedi, Stéphane Kung, Stéphane Bisseger et Sylvain Didier. Et on termine avec du basketball. Les Los Angeles Lakers ont sélectionné le fils de LeBron James, Bronny James, au second tour de la draft NBA cette nuit. « Ma dernière année, je jouerai avec mon fils », avait déclaré la star des Lakers en 2022. Où que soit Bronny, c'est là que je serai, je ferai ce qu'il faut pour jouer avec mon fils. À ce stade, ce n'est plus une question d'argent. À relever que jamais un père et son fils n'ont évolué en même temps en NBA.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.